Chapitre 4. Léonie tremblait chaque fois que les regards des hommes la prenaient pour cible. Ils lui rappelaient les clients de tante destinés, les porcs. On ne lui avait jamais dit que les choses qu'il l'obligeait à faire étaient dégoûtantes, mais, au fond d'elle, elle l'avait toujours su. À cause de la méchanceté, du vice, de la culpabilité qu'elle entrevoyait dans leurs yeux. À cause de la douleur aiguë qui s'étirait de son bas-ventre jusqu'au sommet de son crâne. À cause de la honte inexpiable qui l'accompagnait tout au long de ses nuits. À cause de l'attitude incompréhensible de la hyène et du paon, qui la battait parfois jusqu'au sang, tout en la gardant enfermée dans sa chambre comme le plus précieux des trésors. Elle avait cru que c'était le lot des enfants dans le pays des Blancs. Elle voyait maintenant des bambins jouer et courir dans les squares ou les parcs publics. On déduisait que tante Destinée et Lucius lui avaient confisqué son air et son espace pendant 12 ans. Leur en voulait davantage pour ça que pour les clients et les coûts. Léonie commençait à s'habituer à sa liberté. Elle n'avait pas encore reçu l'avis de la commission d'évaluation des émigrés. La réponse ne tarderait pas, certainement positive, selon Mabel, une éducatrice du foyer d'accueil. Le français de Léonie s'améliorait de jour en jour. Elle tenait désormais de vraies conversations avec les autres pensionnaires du foyer, des Africaines, des Asiatiques, des Roms, des ressortissantes de l'Europe de l'Est, en attente, comme elle, de la décision de la commission, mais aussi des Françaises de souche, des mineurs retirés à leur famille ou des femmes battues par leurs conjoints. Elle parlait de leur malheur à Léonie d'un air morne, mais jamais elle ne lui demandait d'où elle venait ni comment elle était arrivée là. Puisque le temps lui était donné sans compter, elle ne rechignait pas à le partager avec ses sœurs de détresse, à les écouter jusqu'à ce que l'obscurité les escamote et qu'elle tombe de sommeil. Léonie se disait, une fois seule dans sa chambre, que ses propres malheurs n'étaient rien en comparaison des leurs. Même s'il l'avait frappée à coups de ceinture et de bambou, la hyène, le paon et les clients ne l'avaient pas amputée d'un sein ou d'un membre. Ils ne l'avaient pas excisée. Elle n'avait jamais attrapé d'autres maladies que des rhumes et des fièvres. Elle n'avait jamais dormi dans le froid, excepté la nuit où elle s'était évadée. Les rations servies par tante destinée n'avaient pas assouvi sa faim, mais au moins, elle avait mangé tous les jours. Et puis, la plupart des femmes hébergées par le foyer d'accueil avaient été brutalisées elles aussi par les hommes. Les uns payaient, les autres se servaient gratuitement. C'était la seule différence entre les clients de tante destinée et les autres, les porcs. Léonie se coulait alors dans un sommeil apaisé, presque joyeux. L'esprit mauvais avait cessé de la harceler après son deuxième rendez-vous chez les hiboux. D'eux, elle n'avait jamais eu peur. Avec leurs blouses blanches, leurs lunettes, leur air savant, leurs mots rassurants et leurs manières douces, ils ne pouvaient pas appartenir au monde des hommes cruels. Il lui avait demandé de s'allonger dans leur drôle de cercueil métallique. Il l'avait coiffé du casque vibrant et criblé de points lumineux, lui avait fait une piqûre pour la détendre. Elle avait aussitôt plongé dans une profonde hébétude. Elle avait cru ressentir un mouvement furtif au-dessus d'elle, comme une ombre s'échappant de sa tête et de son corps. Puis, une fois revenue à la conscience, il lui avait retiré le casque et l'avait aidé à se lever. Les hiboux se déclarent satisfaits. « La science progresse grâce à des gens comme vous », affirme l'un d'eux avec un sourire, un rien solennel. Ils lui remettent le solde de l'argent promis, 1200 euros en billets de 20, 60 billets. Jamais elle n'a vu autant de fric. Ils lui demandent ce qu'elle compte en faire, elle ne leur répond rien parce qu'elle n'y a pas réfléchi. Déjà qu'elle ne parvient pas à dépenser les 50 euros octroyés chaque semaine aux résidentes du foyer, ils lui suggèrent de s'équiper d'un téléphone portable. Ils pourront ainsi la joindre au cas où ils auraient à nouveau besoin d'elle, et si elle-même a besoin d'argent. Les occasions sont rares sur la place de Paris de gagner 1500 euros sans aucune formation en un laps de temps aussi court. Le monde des téléphones portables n'était pas totalement étranger à Léonie. Lucius, le paon, passait des heures à parler dans le sien, vautré sur le canapé devant la télévision, les pieds croisés sur la table basse. Un jour qu'il était de bonne humeur et que tante destinée, la hyène, était sortie de la maison, il s'était glissé dans la chambre de Léonie et lui avait proposé de lui montrer son dernier bijou technologique en échange d'une... Petite faveur, pas la peine de te déshabiller juste avec la bouche. » Après avoir obtenu ce qu'il voulait et obligé Léonie à déglutir le tout, il l'avait laissé jouer un moment avec les touches de son appareil en lui faisant promettre de ne rien dire à tante Destinée. Tu comprends, Léonie, Destinée serait bien capable de m'arracher les... Quoi ? Léonie n'avait jamais su. Elle avait suivi le conseil des hiboux en achetant un téléphone mobile dans une minuscule boutique située près de la bouche de métro. Elle s'était embrouillée dans ses explications, mais le vendeur, un jeune blanc aux cheveux rouges et au débit frénétique, s'était montré aimable et patient avec elle.
« Pas la peine de me refiler votre numéro, » avait-il murmuré. « Je l'aurai de toute façon. Je m'appelle Théo. Je pourrais vous rappeler ?»
Encore un dingue de peau noire, sans doute. Il lui avait recommandé un tout nouveau modèle. Photos, vidéos, MMS, MP3, Bluetooth, carte bancaire en option, 49 euros seulement, si elle le prenait avec une carte prépayée d'une valeur de 50 euros. Elle n'avait pas compris le quart de ce qu'il lui avait raconté, mais, de peur de passer pour une bête, elle avait hoché la tête d'un air entendu. Si elle savait à peine lire et écrire, vague réminiscence d'une scolarité balbutiante, elle reconnaissait les chiffres et elle avait passé des heures au foyer à se façonner une signature acceptable. Elle avait paraffé d'une main ferme les papiers posés sur le comptoir. Le vendeur avait installé la carte SIM dans le téléphone. Il avait pianoté comme un marteau-piqueur sur le clavier de son ordinateur, puis il lui avait confirmé son numéro d'une voix soudain, ralentie, presque mélancolique, comme s'il cherchait par tous les moyens à la retenir dans la boutique quelques instants supplémentaires. Pas de chance pour Théo. Elle avait mémorisé du premier coup les 10 chiffres de son numéro. Avant de s'engouffrer dans la station de métro, Léonie avait appelé les hiboux pour les informer qu'elle était désormais reliée au monde. Elle s'était aperçue tout à coup qu'elle ne captait plus la présence de l'esprit mauvais. La voix, à la fois lointaine et proche, inconnue et familière, s'était tue. Plus un seul murmure, plus une seule trace d'agitation, seulement un silence radieux, vertigineux, où s'ébattaient ses propres pensées incroyablement nettes, légères, euphoriques. Les hiboux avaient bien dit que la sensation de dédoublement disparaîtrait après le deuxième rendez-vous. Elle ne les avait pas crus sur le moment, persuadée que tante Destinée et Lucius avaient lancé sur elle un fétiche. Elle se rendait maintenant à l'évidence, elle n'était pas envoûtée. Elle ne pourrissait pas de l'intérieur. Elle avait seulement ressenti les effets indésirables du médicament. La hyène et le paon n'avaient pas de cheveux, ni de rognures d'ongles, ni aucun autre morceau d'elle à confier à un marabout. Ils avaient perdu sa trace. Elle souriait aux anges quand elle imaginait les deux charognards en train de se lamenter sur la disparition de leur prisonnière aux fesses d'or. L'appétit de graisse de Léonie diminuait peu à peu. Elle avait perdu une partie du poids qu'elle avait gagné les premiers temps de sa liberté. Au dire de ses compagnes du foyer, elle était devenue une belle plante avec des rondeurs placées aux bons endroits. Elle en doutait. Elle avait beau scruter son image dans les miroirs, elle ne trouvait toujours aucune grâce à son visage, à son nez large, à ses joues pleines, à ses cheveux crépus, à sa peau brûlée aux reflets bronze, à ses seins haut perchés en forme de pointe de sagaie, à ses fesses rebondies, à ses hanches et ses cuisses larges. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi certains hommes avaient dépensé entre 300 et 1000 euros pour passer une ou deux heures en sa compagnie, ni pourquoi les autres hommes, jeunes ou vieux, croisés dans la rue, la déshabillaient du regard. Leurs yeux, plus blessants que des lames, soulevaient en elle des tourbillons de souvenirs nauséeux. Il la renvoyait dans la chambre obscure de la maison de tante Destinée, petite chose crispée sur son lit dans l'attente des coups et autres lubies des clients. Elle croyait que tous les mâles se rendaient le soir dans des pavillons où l'on soumettait, à leur caprice, des fillettes arrachées de la terre rouge d'Afrique ou d'autres terres lointaines.
« Tous des salauds, sûrs et certains !» soupirait Alberte, une malienne d'une trentaine d'années, menacée de mort pour s'être opposée à l'excision de ses filles.
« Rien ne ressemble plus, crois-moi, à un homme noir qu'un homme blanc ou qu'un homme jaune. Tous commandés par la misérable baguette qui se lève entre leurs cuisses. »
Assise sur une chaise en fer, le boubou remonté jusqu'aux genoux, Alberte entrecoupait ses paroles de rires fracassants qui la renversaient régulièrement sur le dossier.
Elle gardait le moral, bien qu'elle fût sans nouvelles de ses filles depuis une quinzaine de jours et que sa famille eût lâché à ses trousses une petite troupe chargée de la ramener à la maison après lui avoir flanqué une bonne rouste. Entrée clandestinement en France, Alberte n'avait pas de papier, elle non plus. Son aventure risquait fort de s'achever par un aller sans retour à destination de Bamako, Mali. Si le ministère de l'immigration la renvoyait dans son pays natal, elle se débrouillerait pour revenir en France. Elle enlèverait ses filles à leur père et à son horrible belle-mère. Elle s'enfuirait toutes les trois dans une région d'Europe un peu plus accueillante. Il n'en restait plus beaucoup. Les partis d'extrême droite conquéraient un à un les pays européens, en commençant par le Nord et l'Est. « Et toi, Léonie, qu'est-ce que tu feras quand tu auras reçu ton avis de régularisation ?» Léonie ne répondit pas. Elle n'en avait aucune idée, elle n'avait pas l'habitude de parler d'elle. Albert et elle s'étaient engagés dans le couloir qui desservait les 20 chambres du premier étage. Un tumulte inhabituel montait de la salle commune du foyer, des éclats de voix, des lamentations, des protestations. « Tu pourrais me prêter un peu d'argent, dis ?» demanda Albert. La plupart des résidentes s'étaient présentées dans la chambre de Léonie pour lui soutirer un peu d'argent. Elle n'avait pas cherché à planquer les billets remis par les hiboux. Elle les avait volontiers partagés avec ses sœurs de souffrance. Elle ne voyait pas pourquoi elle les aurait gardés pour elle alors qu'elle n'en avait pas vraiment l'usage. Tant destinée, la hyène, elle les serrait avec une telle force entre ses griffes vernies que personne, pas même Lucius le Pan, n'aurait pu les lui arracher.
« Combien tu veux ?»«
Donne-moi donc 3 », répondit Albert avec un sourire crispé. « 4 plutôt !» Léonie l'invita dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir de la table de chevet où elle entreposait les billets, demeura figée quelques secondes quand elle constata que le tiroir était vide.
Y a plus rien.
Albert vint à son tour jeter un coup d'œil au tiroir où ne subsistaient que des emballages de bonbons et de barres chocolatées, vestiges de la période boulimique de Léonie. Tu les as pas mis ailleurs, t'es sûr? Léonie secoua la tête. Alors ma vieille, quelqu'un te les a volés.
Volés? Absurde.
On volait les gens qui enfermaient leurs trésors dans des coffres, comme dans les films de bandits qui passaient à la télévision. On volait les mauvaises personnes qui refusaient de partager leurs richesses. On ne volait pas quelques billets destinés de toute façon à être distribués. On ne se volait pas entre sœurs de souffrance.
Ça t'apprendra à faire attention, chérie, lâcha Albert d'une voix dure. T'es plus dans ton bled du Libéria.
Elle sortit de la chambre d'un pas rageur et claqua violemment la porte derrière elle. Léonie resta un moment debout près de son lit, pétrifiée. Elle se souvint que la plupart des résidentes du foyer fermaient leurs portes à clé. Elle s'était demandé pourquoi elle faisait preuve d'une telle méfiance. Elle tenait maintenant sa réponse et la réponse ne lui plaisait pas. Les hommes et les femmes, comme tante destinée, la hyène, étaient supposés être les salauds. Pas les autres femmes, encore moins les sœurs de détresse. Elle se souvint de l'air tragique de Lia, la première qui lui eut adressé la parole dans le foyer. Les yeux de la petite blonde anorexique ne cessaient de volter d'un point à l'autre, comme des oiseaux en cage. Lia, si menue, si angélique, s'était déjà frottée aux aspérités de l'existence. Albert avait raison. Léonie devait apprendre la méfiance. On frappa à sa porte. Elle n'eut pas le temps d'aller ouvrir que Mabel s'engouffrait dans sa chambre, brandissant une feuille blanche barrée de bleu et de rouge.
« La réponse de la commission. »
Mabel, l'autruche, corps volumineux, petite tête posée sur un long cou flexible, crête de cheveux dressée comme un plumeau au-dessus de sa tête, peau laiteuse et marbrée de vénules bleues, une gentille femme, qui compatissait bruyamment à la fortune des résidentes, remuait sans cesse sa grande carcasse, courait, l'air affolé d'un coin à l'autre du foyer, sorte de mère collective débordée par les tâches et les bons sentiments. Léonie comprit, à l'air tragique de l'éducatrice, que la vie était négative. Elle n'en pensa pas grand-chose sur le moment, elle ne se sentait pas concernée. Les deux femmes s'assirent sur le petit lit et restèrent un moment silencieuses, les yeux rivés sur le lino moucheté. L'idée commença à faire son chemin dans l'esprit de Léonie. Mabel ne pouvait pas se tromper. Elle allait donc repartir pour le Libéria, le pays de sa naissance qu'elle ne connaissait pas. Elle serait une étrangère là-bas, comme elle était une étrangère ici.
Elle n'avait plus aucun souvenir de ses parents. S'ils avaient été de vrais parents, ils l'auraient arraché des griffes de la hyène. Peut-être même avait-il vendu leur fille, les rats. Ou bien avait-il touché une partie de l'argent amassé par la captive aux fesses d'or? Comment on appelait ça déjà? Un placement? Le soleil brillait de tous ses feux dehors, et pourtant, la lumière s'était éteinte dans les yeux et dans le cœur de Léonie.
« Ils ont fixé la date de départ, » ajouta Mabel d'une voix défaite.
« Dans 3 jours, pas un de plus, ils viendront te chercher demain matin à 8 heures. Ils t'emmèneront dans le sas de l'aéroport de Roissy. Je... »
Elle secoua la tête au bord des larmes.
« Je n'y comprends rien, rien. J'étais persuadé que tu serais régularisé. Si les dossiers comme le tien ne passent pas... C'est qu'il n'y a vraiment plus rien à espérer de la commission. Je suis dégoûté. Écœuré.
Les journaux télévisés abordaient quotidiennement le sujet sensible, brûlant, de l'immigration. Les élections présidentielles et législatives approchant, les partis politiques se lançaient dans d'incessantes surenchères pour appâter l'électeur farouche, celui qui ne se montrait nulle part mais qui faisait et défaisait les gouvernements dans le secret des isoloirs. Immigration zéro était devenu le slogan principal des partis de droite et de gauche. Les frontières européennes se fermaient, les expulsions se multipliaient, l'extrême droite, revancharde, goguenarde, s'en réjouissait. Les douaniers et les gardes-côtes des régions les plus exposées avaient reçu l'ordre de tirer sans sommation sur les clandestins qui essayaient par tous les moyens de s'introduire dans le bunker paradisiaque européen. Alberte, la malienne, avait raconté que 4 de ses compagnons avait été tuée par les douaniers espagnols sur les côtes andalouses. Blessée à la jambe, elle avait réussi à se traîner dans les rochers en compagnie de celui qui allait devenir son mari. Il n'aurait pas dû le rater, celui-là, le chien. Léonie se souvenait que Tante Destinée et elle étaient passées sans encombre à la douane de l'aéroport de Roissy. Elle avait cru se retrouver, à son arrivée en France, dans le ventre d'une termitière géante, propre et parfaitement cohérente, malgré le désordre apparent.
« Faut que j'y aille, » reprit Mabel. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à venir me voir dans mon bureau. Je devrais t'enfermer normalement, mais je ne suis pas une gardienne de prison. Et puis, je te fais confiance. Je te laisse la vie. »
Elle se leva dans un grincement de ressort martyrisé et sortit de la chambre avec une brusquerie qui trahissait son embarras et son soulagement. L'autruche n'avait parfois plus de compassion à épancher. Léonie resta assise sur son lit jusqu'au petit matin, prise dans un tourbillon de pensées qui l'emmenait loin en elle. Quelques souvenirs du Libéria crevèrent la surface de son esprit. Enfant demi-nu jouant sur une piste de terre rouge parsemée de flaques boueuses. Dispute bruyante entre un homme et une femme dans une pièce au mur lépreux. Soldat aux allures de fantôme et aux yeux brillants traversant la petite ville. Tête de poisson flottant dans l'eau bouillante d'une marmite. Cadavre couvert de mouches dans un fossé. Tante Destinée, en grande conversation avec une autre femme, éclairée par un rayon oblique et rougeâtre. Il n'y avait pas de cohérence entre eux, du moins, elle n'en voyait pas. Il fusait dans son esprit à la vitesse d'étoiles filantes, pièces éparses et fugaces d'un impossible puzzle. Elle n'avait pas sommeil. Les flics allaient bientôt venir la chercher. 8 heures, avait dit Mabel. Léonie consulta l'écran de son téléphone portable. 6h32. La décision surgit en elle, brutale, suffocante. Elle n'irait pas au Libéria. Elle se leva, comme propulsée par les ressorts de son lit. Elle n'irait pas au Libéria. On l'avait emmenée en France sans lui demander son avis. Elle y resterait, ombre parmi les ombres. Elle savait où trouver de l'argent. Elle dégourdit ses membres ankylosés, retira sa robe, enfila un jean, un t-shirt et des chaussures de sport, entassa ses maigres effets dans le petit sac à dos acheté quelques jours plus tôt, puis elle ouvrit la fenêtre de sa chambre, qui, contrairement à celle du rez-de-chaussée, n'était pas munie de barreaux, enjamba le rebord et se glissa dans l'entrebâillement. Des traînées roses et mauves enflammaient les nuages effilochés. Des lumières encore éparses criblaient les façades des immeubles proches. Elle sauta, se réceptionna 3 mètres plus bas sur l'herbe tondue la veille par le jardinier du foyer. L'air était frais, presque froid. Il lui fallait encore escalader la grille.
un poids sur sa nuque. Elle se retourna, le visage d'Albert collé contre la vitre de sa chambre. Ses yeux brillaient comme deux étoiles tragiques dans un carré de nuit. Elle craignit que la malienne n'ameute les éducatrices du foyer, mais Albert se contenta de lui adresser un petit signe de la main accompagné d'un sourire triste. Léonie lui rendit son salut avant de se diriger d'un pas résolu vers la grille.